Bienvenue au QG des héros, le podcast où je te parle de développement personnel, de gamification et d'entrepreneuriat durable. Dans cette première saison, je te fais part de l'aventure dans laquelle je me lance pour devenir ludothérapeute autodidacte. Le tout dans le jeu, l'humour et la bienveillance. Suite et fin de l'interview de Thomas Piton, accompagnateur multipotentiel. Dans cette deuxième et dernière partie, je lui demande sa vision de la ludothérapie, et plus particulièrement du métier de ludothérapeute. Petite nouveauté, à la fin de ce podcast, je vous poserai une petite devinette. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle écoute.
Mais justement, alors je fais le point avec tout ce que tu viens de dire. Tu parlais d'utiliser le jeu comme thérapie. Donc, je t'ai fait part de ma légende personnelle, celle de devenir ludothérapeute autodidacte. Donc, c'est là où je vais poser une troisième question. Quelles compétences tu penses qu'il est intéressant de développer ou qu'il est nécessaire de développer pour devenir justement ludothérapeute ou pour être ludothérapeute?
Ok. Et on va lancer un dé.
Et oui. Et là, du coup, il reste le orange ou le mauve?
Allez, le mauve.
Le mauve. C'est parti pour le mauve. C'est parti, attention. Coup de bol.
Coup de bol. Très bien. Eh bien, mon cher Olivier, tu as un projet qui est de devenir ludothérapeute.
Oui.
Eh bien, coup de bol, il y a quand même beaucoup de gens qui vont mal dans notre société. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin d'être accompagnés pour se sentir mieux. Alors, il y a énormément de choses qui sont proposées, hein, des thérapies, on va dire, traditionnelles, et puis des thérapies qui sont qualifiées d'alternatives. Toi, tu veux proposer une thérapie alternative. Et ta question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait comme qualité pour pouvoir être un bon ludothérapeute?
C'est ça, tout à fait.
Je pense que pour répondre à cette question, il faut déjà voir ce qu'il y a dans le terme. T'as ludo et t'as thérapeute.
Oui.
Donc forcément, on va avoir deux familles de compétences derrière. Mmh. Et des compétences ludiques, et puis une passion pour le jeu aussi nécessairement. Si on n'aime pas le jeu, je ne vois pas comment on pourrait être ludothérapeute. Pour ça, je suis rassuré de ton côté. Je sais que c'est quelque chose qui t'habite. Donc, des compétences ludiques, bah, c'est un peu des compétences de game design. Hein. C'est ce dont on parlait juste avant. C'est-à-dire que tu vas utiliser le jeu avec un certain objectif. Donc, tu vas devoir réfléchir à un moment donné à quel jeu tu vas utiliser ou comment tu vas créer un jeu pour qu'il réponde à cet objectif qui est d'aider cette personne à aller mieux. Donc, forcément, il y a des compétences de game designer, quelque part, je pense. Thérapeute, ça nécessite quand même de bien connaître le fonctionnement de l'humain, ce que c'est que la santé, ce que c'est que la pathologie, et d'être capable de faire un bilan avec la personne qu'on a en face de soi de pourquoi elle va pas bien. Sans bilan, il n'y a pas d'action, quel que soit, sans diagnostic, on va dire, il n'y a pas d'action. Donc à un moment donné, il faut pouvoir faire un diagnostic et puis établir si ce qu'on a à proposer est pertinent ou pas pertinent, et si c'est pertinent, de quelle manière ça peut l'être, pourquoi ça peut l'être. Pour garder à l'esprit que il n'y a pas une thérapie miracle qui va répondre à tous les besoins. Et une des qualités, ça va être, on revient toujours dessus, un peu l'analyse, le pragmatisme aussi. Avec ce pragmatisme, connaître les limites de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire, de à quel point on est complémentaire ou pas complémentaire d'autres choses, comment se situer dans le panel thérapeutique. Chaque thérapeutique, je pense, il y a très peu de thérapeutiques qui se suffisent à elles-mêmes. Médecine générale, la boîte générale, elle a besoin des spécialistes, elle a besoin à un certain moment, c'est les médecines alternatives qui vont résoudre des problèmes que la médecine générale n'a pas résolus. Donc, plus on va être ouvert aussi à ce qu'il y a autour, et plus ça va être facile de se positionner dans ce paysage thérapeutique. Ce pragmatisme-là, il va permettre d'éviter de tomber, comme ça arrive dans certaines thérapies alternatives, dans ce côté « je résous tout ». Vraiment, je pense que c'est hyper important quand on veut développer une thérapie alternative de savoir où on se positionne, où sont les limites de ce qu'on peut apporter. Et puis après, une autre qualité aussi quand on se lance dans quelque chose qui n'existe pas et où il y a un enjeu qui est important quand même, parce qu'on va pas promettre, mais on va proposer aux gens de les soigner quelque part, c'est l'humilité. C'est savoir que on est à l'essai. On n'a pas de recul au départ. Et surtout ne pas faire croire à la personne qu'il y a une assurance, parce que les gens vont chercher ça souvent, dire mais c'est sûr, c'est garanti, je vais aller mieux en faisant ci, en faisant ça.
Tout à fait.
Parce qu'ils vont peut-être payer à un moment donné. Si on veut en faire un métier, ça veut dire qu'ils vont payer. Ça sera sûrement pas remboursé par la sécurité sociale. Donc avoir des garde-fous pour ne pas créer chez la personne en face une croyance que il y a quelque chose de garanti, que c'est sûr qu'elle va aller mieux, que c'est quelque chose qu'on essaye. Ne pas générer cette croyance chez soi aussi non plus qu'on va tout résoudre. Ça, c'est on en revient à l'humilité quand on démarre. Et par là aussi, mais c'est vrai pour toute thérapie alternative, veiller à ne pas générer de lien de dépendance entre le soigné et le thérapeute. Voilà, donc il faudrait avoir des compétences de game design, je dirais, et puis toutes les compétences qu'on doit avoir quand on est dans le soin, en particulier quand on est dans le soin alternatif, et en particulier quand on est dans un soin alternatif qu'on essaye de créer, qu'on essaye de développer à partir de rien, sans précédent.
Merci pour ce regard et cette vision. Moi, ça me parle beaucoup. Moi, comme j'étais infirmier avant, du coup il y avait déjà cette posture dans le soin, c'est de permettre à la personne de trouver ses propres ressources et finalement d'aller de favoriser son autonomie. Il y avait vraiment cette question là donc on revient à ce que c'est la personne qui, si elle est engagée à aller mieux, qui pourra elle-même se soigner en quelque sorte. Tu l'accompagnes à ça. Donc ouais, merci pour ce regard.
En tout cas, je suis convaincu que le jeu offre tellement de possibilités. Et si le game design est bien fait, en fait, on peut vraiment avoir un coup d'avance sur ce qu'on va faire vivre à la personne, intrinsèquement, individuellement, collectivement, dans ses interactions avec les autres. Donc forcément il peut y avoir une portée thérapeutique. Après il faut bien la réfléchir, et puis c'est essai-erreur. On essaie des choses, on analyse ce que la personne ça lui a apporté ou pas, on réajuste, et ça c'est très long. Un processus qui est très long, il faut de la patience.
Carrément. Et en même temps c'est chouette parce que dans le jeu justement, c'est vraiment cette philosophie, cette dimension là j'apprends par l'erreur. J'en sais plus sur le jeu quand j'ai perdu, je recommence, et ainsi de suite. Je trouve que la dimension du jeu amène vraiment cette philosophie et cette approche qui est pour moi hyper intéressante dans la vie en général, de toute façon. De s'accorder, de faire des erreurs pour apprendre et avancer, d'aller par tâtonnement.
Et c'est vrai que la ludothérapie pourrait par exemple amener les gens à appréhender leur vie, leurs choix, les événements, à la manière d'un jeu aussi, un jeu avec des enjeux, puisque ça se passe dans la vie réelle.
Tout à fait.
Mais pourrait apprendre à travers le jeu à réagir aux événements et à faire des choix pour les transposer ces choses-là dans leur vie aussi d'une certaine manière.
Exact. Moi, je vois vraiment cette force-là à travers l'approche ludique, vraiment, énormément. On va arriver à la fin de cette interview et du coup je voulais que les auditeurs et les auditrices puissent savoir comment te joindre en fait, comment en apprendre plus sur toi, quels sont les moyens, les médias, quels sont les supports sur lesquels ils peuvent consulter ou s'appuyer pour pouvoir soit te contacter, soit apprendre plus sur ce que tu proposes, sur tes services.
Alors, c'est peut-être la question la moins facile que tu me posais aujourd'hui. En fait, je ne communique que sur mon activité de médiateur. D'accord. J'ai un site internet qui s'appelle mediateur.re.
D'accord, ok.
Donc, sur lequel il y a un aperçu des services que je propose en médiation, autour de la médiation. Et pour tout le reste, en fait, c'est vraiment que du bouche à oreille.
D'accord.
Et aujourd'hui, je suis dans une réflexion sur le développement de mes activités pour pas me laisser submerger comme je fais plein de choses. En fonctionnant comme ça, pour l'instant, j'ai déjà beaucoup de travail.
Okay.
Alors, il y a des choses que je vais diminuer, il y a des choses que je vais augmenter, d'accord, très certainement. Je suis toujours intéressé par tous les défis, tous les challenges. On me propose régulièrement d'autres choses qui sont même pas dans ce que je fais déjà, mais qui sont en périphérie, tu vois. Bon, les gens pensent à moi, ils me disent, bah tiens, on voudrait bosser avec toi là-dessus. Bon, bah, j'y vais, du coup, je prends un truc de plus.
Okay.
Donc, pour en savoir plus sur ce que je fais, faut discuter avec moi, je crois, parce qu'il y aura pas trop de vitrines. Je peux pas avoir 5-6 vitrines différentes, ce serait trop lourd à gérer. La porte d'entrée, ça peut être mon site mediateur.re.
Ok.
Mais yes, pour me parler de toute autre chose. Et puis, dans le courant de l'année, je pense que sur le game design, il y aura certainement un deuxième site internet.
Mmh.
Après, pour les bilans de compétences, je travaille avec Corto Concept,
d'accord,
qui okay, est un organisme de formation à La Saline. On peut me contacter directement aussi, c'est pareil. C'est vraiment beaucoup de bouche à oreille en fait.
Très bien.
Et j'aime bien parce que le bouche à oreille, quand les gens n'arrivent pas par hasard jusqu'à toi,
ouais,
ils arrivent jusqu'à toi parce que ils ont entendu parler de comment tu travailles, mmh, et pas uniquement parce qu'ils ont fait une recherche Google.
Mmh.
Ça pose déjà des bases différentes, mmh, dans la collaboration qu'il va y avoir derrière.
Mmh. Ok.
Donc voilà, mediateur.re, le petit formulaire, voilà, de contact, okay, et puis vous pouvez m'envoyer un message, coucou, je te contacte pour un truc qui n'a rien à voir avec la médiation, et puis bah voilà, ça peut s'engager comme ça.
Exactement, sur tes natures multiples ou tes multiples casquettes sur lesquelles tu consacres ton temps. Mmh. Ouais, ok, bah super. Est-ce que envie de jouer une dernière fois avec le dé de conclusion?
Ah oui, ouais, bien sûr.
Ça te dit?
Ouais.
Donc c'est le dé bleu que je lance.
Ok.
Et qui va.
Il y a une question associée au dé ou?
Eh ben en fait le mot de la fin.
Le mot de la fin.
Quel est le mot de la fin?
Okay.
Pour toi.
Très bien.
Sauf que.
Sauf que.
Un petit défi pour terminer ce podcast.
Ok. Alors, le mot de la fin, on va commencer par merci. Mmh. Merci Olivier de m'avoir proposé cet exercice.
Merci à toi.
Parce que c'est chouette. Ouais. Parler de ce qu'on fait, parler de ses projets, ça aide à faire avancer ses projets aussi. Mmh. Et puis à mieux se connaître.
Mmh. Yes.
Donc, Ce podcast, j'espère qu'il t'aura rendu service. Il m'aura rendu service à moi aussi. Sauf que c'était un peu court.
C'est vrai que ça passe vite. Hein.
Mais bon, ça n'empêche pas d'avoir d'autres discussions sans micro.
Tout à fait, effectivement, voilà. En dehors, exactement.
C'était mon mot de la fin. Excellent.
Bien joué en tout cas. Bravo, merci pour cet accueil. Merci pour ce retour. Merci d'avoir joué le jeu. T'as super bien joué le jeu. Ok. Ça me fait plaisir. C'est pas un placement de produit, hein. C'est pas parce que mon entreprise s'appelle Joue le jeu que à chaque fois je dis bien joué, merci d'avoir joué le jeu. C'était un plaisir vraiment. Merci pour tes retours, merci pour ton regard et merci pour cette énergie hyper posée que tu amènes. Je suis hyper sensible moi par rapport à ça et je trouve c'était voilà un podcast posé.
Ouais,
ça fait du bien.
Si. Bah écoute, avec plaisir. Et puis bon courage pour tes projets.
Merci.
Je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel.
Mmh.
Je pense que comme tu as été soignant aussi, tu as bien conscience des écueils dans lesquels on peut tomber quand on se lance dans le soin alternatif. Mmh. Donc tu es préparé à ça, tu es quelqu'un d'averti, mmh, et tu as la passion ludique qu'il faut pour réussir à faire la connexion entre le ludique et le thérapeutique, donc faut y aller. Je pense tu vas apporter quelque chose qui si ça n'existe pas, bah voilà, tu t'auras apporté ta pierre et ça c'est cool.
Yes. Bah ça existe, hein. Il y a des formations qui sont proposées là-dessus, hein. Mmh. La ludothérapie, j'ai commencé à faire des recherches sur internet, ça existe. Il y a des formations, je crois, en métropole ou en Europe, Mais là, il y a vraiment ce désir pour moi d'aller pas à pas, à ma manière, de créer mon sentier, de créer ma légende, hein, de toute façon, c'est vraiment ça. Merci encore Thomas, moi je vous invite vraiment, avec le bouche à oreille, visiblement tu as déjà beaucoup de travail, les clients sont déjà là.
C'est toujours stimulant d'avoir de nouveaux défis, de nouveaux contacts.
Yes. Ouais. Moi, j'adore. Et du coup, il y a un petit truc quand même que j'ai envie d'apporter sur la fin de ce podcast, c'est que tu as pas parlé de toutes tes richesses, il y a aussi, tu fais beaucoup de théâtre. De l'impro, voilà, ouais. Et que c'est encore une des cordes à ton arc en fait que tu mets en œuvre en fait aussi dans ton accompagnement.
C'est vrai que ça m'est très utile. Alors je suis débutant en impro,
okay,
voilà, j'ai entamé ma deuxième année là,
ouais.
Mais ça m'est très utile, effectivement, et à la fois ça m'est utile dans tout ce que je fais professionnellement, ouais. Et en même temps, tout ce que je fais professionnellement m'est aussi utile dans l'impro. Il y a vraiment une alimentation réciproque entre les deux domaines.
Okay.
Donc, l'impro, de toute façon, c'est fantastique pour le développement de la relation avec les autres, de l'expression, de la clarification des idées, et surtout de l'écoute. L'impro nous impose, c'est dans les compétences de base des débutants, d'écouter, ouais. Alors qu'on a des idées en tête et qu'on a envie, elles veulent sortir, et on doit apprendre à se taire. On doit apprendre à se taire et à renoncer aussi, renoncer à faire ce qu'on avait prévu de faire, à dire ce qu'on avait prévu de dire. Parce qu'une fois que l'autre a parlé, c'est plus pertinent, ça construit plus l'histoire.
Et oui.
C'est un énorme apprentissage relationnel, je trouve, l'impro.
Ah ouais.
Et j'ai pas fini d'apprendre. Hein,
s'ajuster, non, en quelque sorte, non, enfin, par rapport à...
Communiquer,
ouais.
Avec l'autre et pas juste exprimer à l'autre des choses. Communiquer, être vraiment dans l'échange et dans la co-construction de quelque chose.
Yes.
Dans l'impro, on va co-construire une histoire,
oui.
Et l'impro va marcher si on a réussi à se synchroniser. Si on a un qui déblatère un truc extraordinaire pendant 2 minutes et que l'autre n'a pas pu interagir avec lui, l'impro sera très mauvaise. Donc là, il y a vraiment cette notion de rencontrer l'autre, de se synchroniser avec l'autre, d'être à l'écoute réciproquement et des choses dont on peut manquer dans la vie à certains moments. De laisser la place à l'autre, trouver sa place aussi dans l'interaction, dans la relation. Donc ça, c'est super chouette. Et la ligue d'improvisation, c'est dans cette association-là que je m'entraîne, que j'évolue.
Okay.
Je suis membre du bureau également.
D'accord.
C'est une super association à laquelle j'invite tous ceux qui s'intéressent un peu à l'impro à venir, à faire des essais, alors seulement à partir du mois de juin.
Okay.
Mais on est très ouvert, il y a beaucoup de bénévoles, c'est une association qui vit bien et qui m'apporte beaucoup.
Excellent.
Moi, en tout cas.
Excellent. J'aime bien terminer du coup sur cette note j'ai l'impression que toi et moi, c'est vraiment, il y a le goût aussi de la rencontre, là, de ce que je touche là. C'est pourquoi on fait ce métier aussi, c'est parce qu'on a ce goût d'être en relation et d'aller à la rencontre de l'autre. Et là, pour moi, ça transparaît très bien dans ce que tu dis. Donc, une autre manière aussi de te rencontrer, c'est de faire de
l'impro. Ouais, ou de venir voir les spectacles.
C'est ça.
Ou de l'impro, voilà. Ouais.
Exactement.
Mais c'est ce que tu dis est vrai. De toute façon, on est des êtres relationnels. Et après, on a deux options. C'est de bien vivre ou mal vivre ses relations. Faire en sorte que ces relations, elles soient agréables. Ou alors, les laisser parfois... être insatisfaisante parce qu'on ne sait pas. Donc ça devrait être un objectif de tout être humain, d'être bien dans ses relations. On est forcément en relation, on ne peut pas vivre dans une grotte tout seul, en autosuffisance.
Ouais.
Donc quand on a des difficultés relationnelles, il faut se questionner, je pense. Et il faut en faire un objectif, de se dire je vis avec les autres, donc il faut que ce soit bien pour moi et pour les autres.
Tout à fait.
Et il y a plein de moyens d'y arriver.
Exact. Dont l'impro ou le théâtre ou enfin bon,
l'impro, la médiation, le jeu, le développement personnel, tout plein de choses. Puis on en revient toujours aux mêmes choses, c'est d'abord se connaître soi pour pouvoir ensuite
mieux
savoir être bien en relation avec les autres, savoir faire des choix pour sa vie, pour ses orientations professionnelles, pour où on veut vivre, ou bien tout simplement qu'est-ce qu'on va manger ce midi.
On revient, voilà, c'est bien. Ah oui. Je crois que
la boucle est bouclée.
Voilà, c'est ça. On revient au projet de ce que tu faisais par en début de podcast, et que savoir ce qu'on va manger le midi peut être aussi un projet.
Tout à fait.
Et tu accompagnes des projets, donc voilà.
Tout à ça. Fait. Si vous ne savez pas ce que vous allez manger ce midi et que c'est un gros problème pour vous, une source de stress, venez me voir. Voilà. Et une garantie, à la fin, vous saurez ce que vous voulez manger. Et
là, tu garantis le résultat, là, par contre. Non,
en le disant, je me suis dit non, il ne faut jamais rien garantir.
Yes, excellent. Thomas, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Et puis. Ben, plein de belles choses. En plus, on est en début d'année, donc j'en profite pour te faire part de tous mes vœux de réussite, de bonheur, d'épanouissement, de santé, de bien-être pour cette année 2023.
Et ben, tous mes vœux aussi. Et j'ai trouvé là, il n'y a pas longtemps, la petite formule que j'adresse aux gens.
Oui.
C'est, je te souhaite de trouver la parfaite harmonie entre ce que tu es et ce que tu fais.
Yes.
Voilà.
Entre le faire et l'être. Yes, parfait, excellent. Bah, chers auditeurs, chères auditrices, on va terminer sur cette petite note. On vous souhaite à tous une très très bonne année 2023. Et donc, la phrase que tu viens de dire, de trouver l'harmonie.
Je vous souhaite d'être en parfaite harmonie entre ce que vous êtes et ce que vous faites.
Ben voilà, comme mot de la fin, il n'y a pas mieux, je trouve. Merci encore Thomas.
Merci à toi.
Et c'est ainsi que s'achève l'épisode 3 de la saison 1 « Je crée ma légende ». J'ai envie de vous poser une question maintenant. Abordons cette fameuse devinette. Avez-vous prêté attention à la musique que j'ai utilisée pour réaliser le générique de début ? Figurez-vous qu'il s'agit d'une musique qui est extraite d'un film qui aborde une légende hyper connu de tous. Le réalisateur est un réalisateur que j'apprécie énormément. Il a une manière de filmer, il a une manière de retranscrire le dynamisme et l'humour qui est vraiment propre à lui, très singulier. Il a une touche, une patte qui est remarquable. Le film, en plus, pour moi, est un de mes plus grands coups de cœur, un très grand coup de cœur. Il aborde à la fois le thème de légende, mais aussi la gouvernance partagée. Et il aborde l'adversité comme un outil remarquable pour se réaliser soi et se révéler à soi-même. Je ne saurais trop vous le conseiller. Et... quel est donc ce film ? Le prochain épisode sera mis en ligne jeudi prochain à 17h17, heure de La Réunion. En espérant vous y retrouver, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée.